4 octobre, l'église célèbre Saint-François d'Assise. Nous sommes avec l'abbé Philippe Beitia. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable de la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Bayonne. Et vous allez peut-être nous éclairer un peu sur ce saint italien qui est peut-être un des saints les plus connus dans l'église.
Alors non seulement c'est un des saints les plus connus dans l'église, mais c'est encore, pour ainsi dire, même à l'extérieur de l'église, et même, je crois, dans le monde musulman, enfin, ou chez les protestants, c'est une figure qui marque.
Rappelez-nous les dates de saint François d'Assise.
Alors, il naît vers soit en 1181, soit en 1182, et il décède le 4 octobre 1226.
À l'origine, c'est le fils d'un riche marchand.
Voilà, c'est le fils d'un riche marchand. Son nom de baptême, c'est Jean. Mais le père fait des affaires en France, il apprécie la France et il surnomme en quelque sorte son fils Francesco le Français. Et c'est ce nom que François d'Assise va garder. Donc c'est effectivement le fils d'un marchand très aisé.
Qu'est-ce qui va se passer pour que Saint François d'Assise se convertisse finalement et entre dans les ordres?
Tout d'abord, comme fils d'un marchand très aisé, il va mener la vie d'un jeune de son époque. Là, donc, il va chercher les beaux habits, il aura des copains, il y aura sûrement quelques frasques nocturnes. Par ailleurs, bien sûr, il va... C'est une époque où, en Italie, on est à couteau tiré, donc il va s'engager dans ce qui est l'armée de l'époque. Et jusqu'au moment où, bien sûr, si vous vous engagez dans l'armée, vous risquez d'être prisonnier, et François, effectivement, est fait prisonnier dans ces combats entre cités italiennes. C'est là qu'il va se remettre en cause, bon, donc il va sortir de prison. Ses compagnons le trouvent très pensif, alors ils le chahutent, bien sûr, ben voilà, à quelle belle penses-tu, enfin, ce genre de choses. Et, leur dit-il, j'en connais une qui est la plus belle, alors tout le monde est un peu étonné, c'est Dame Pauvreté. Donc, il y a, à ce moment-là, voilà, le désir sûrement déjà d'une vie plus simple.
Peut-être il est bon de rappeler un peu le contexte de l'Église à cette époque pour comprendre justement cette évocation de Dame Pauvreté et puis cette idée que François d'Assise va se sentir appelé à reconstruire l'Église.
L'Église de l'époque est une Église installée. Alors, il y a bien sûr un grand pape, Lothair Seni, le pape Innocent III, mais c'est une Église installée. Une Église peu conforme à l'Évangile. Ce qui fait qu'il va y avoir des tas de groupes qui vont vouloir vivre la vie évangélique, comme les Vaudois et quelque chose. Bon, mais qui vont se séparer de l'Église ou qui vont avoir une croyance qui n'est pas la foi de l'Église. Donc voilà un peu une Église assoupie à telle enseigne d'ailleurs que. La tradition raconte que le pape Innocent III fait le songe, un songe durant la nuit où il voit la basilique du Latran, dans la cathédrale de l'évêque de Rome, s'effondrer et un petit homme alors, qui est en train de la relever. Alors, ce songe a aussi une variante, c'est aussi Saint Dominique, plus tard, dans le même créneau, qui relève. Donc, ce qui nous dit quand même la préoccupation d'Innocent III. Et en parallèle, François, dans ce cheminement spirituel, entend une parole intérieure qui lui dit « Va réparer mon église ». Alors lui, il pense que c'est une petite chapelle, Saint-Damien. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les sous chez son père. Bon, ce qui provoque bien sûr une crise. Donc, il va porter cet argent au chapelain de Saint-Damien, lequel, bien sûr, voit un peu de quoi il s'agit et dit que il n'en veut pas. Bon, par la suite, il va restaurer cette chapelle d'une autre manière. Et dans le fond, il va se rendre compte que c'est pas exactement cette chapelle qu'il faut restaurer, mais que c'est l'église du Christ.
Que va-t-il se passer? Parce qu'il va fonder donc un ordre.
Ah, François n'est pas un institutionnel. Il ne fonde pas un ordre en tant que tel. L'église, par la suite, fondera l'ordre. François donc va réunir quelques compagnons pour vivre la vie selon l'évangile. Ils vont prendre l'évangile au pied de la lettre. Et quand il est question de faire une règle, il dit que pour lui, la règle, c'est des miettes d'évangile. Bon. Ils vont vivre l'évangile au pied de la lettre, ils vont commencer à prêcher sur les chemins, mais ils sont ni évêques, ni prêtres, ni diacres, donc ça posait quand même un petit problème. On va les convoquer et on va les autoriser à prêcher la conversion. Mais ce mouvement, dans le peuple chrétien, il y a une attente. Et il va y avoir donc beaucoup de gens qui vont être attirés par ce que François fait, à telle enseigne que va naître de cette initiative la première participation de laïcs à la spiritualité de l'ordre. Ce qu'on appelle, ce qu'ils appelaient l'ordre de la pénitence, qu'on a appelé ensuite le tiers-ordre, et qui sont aujourd'hui les fraternités franciscaines. Donc ça va une grande diffusion, à telle enseigne qu'à un moment donné, François dit avec humour que voilà, toute la terre devient son disciple et que de temps, il doit quand même un peu serrer pour l'accès dans sa communauté.
Vous avez évoqué Dame Pauvreté, mais il y avait une autre femme aussi dans sa vie, c'était Claire d'Assise.
Il y a eu plusieurs autres femmes dans la vie, outre sa mère, bien sûr, dont on voit très bien qu'il y a une affection pour sa mère. Il y a bien sûr Claire d'Assise et il y a celle qui va appeler frère Jacqueline. Donc voilà, Claire d'Assise, elle est aussi de... bien située dans la société, petite noblesse. Elle est séduite par l'idéal évangélique. Et François va lui couper les cheveux, je crois, à Saint-Damien, si mes souvenirs sont bons. C'était le signe, depuis l'époque mérovingienne, de l'entrée dans la vie religieuse. Mais bon, c'est plus ou moins clandestin, ce genre de choses. Donc bien sûr, La famille de Claire va s'en offusquer, on va essayer de la ramener. Ça va être un peu chaud. Alors, Claire d'Assise, on va fonder ce qu'on appelle aujourd'hui pauvre Clarisse. Dans son enseignement, il y a l'image du miroir. Il faut se regarder dans un miroir qui reflète l'image du Christ. Et en se regardant dans ce miroir, bien sûr, faire passer dans sa vie la vie, les attitudes et l'esprit du Christ.
Abbé Philippe Beitia, Saint François d'Assise est lié à la nature et aux animaux.
Effectivement, on le trouve plutôt dans les Fioretti, c'est un texte écrit par la suite. Sûrement, c'était un homme d'une grande sensibilité. Donc il y a bien sûr une admiration de la nature, il a composé un très beau poème, et puis il y a, c'est dans les Fioretti, il prêche aux oiseaux qui se rassemblent, il dit un loup à Gubbio qui menace les habitants, qu'il ne faut plus faire ça, le loup devient domestiqué, il vient à Gubbio, enfin le traiter comme un loup domestique, donc voilà. Aussi un grand amour des animaux, et bien sûr par là, il peut être un inspirateur, et il l'est pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église verte.
Voilà. C'est le patron des écologistes.
Alors je ne sais pas avec exactitude si c'est le patron des écologistes, mais vu que c'est aussi un peu un frère universel, quel que soit le type d'écologiste, je pense qu'il doit veiller sur eux, les inspirer, intercéder pour eux sûrement. On peut l'imaginer.
Un mot sur le lien de Saint François d'Assise avec les musulmans.
C'est pas un homme de très grande santé. Il va donc partir au Maroc, où il y a déjà 5 frères qui sont partis. Et il va rencontrer un responsable politique, je crois, musulman. Et il va y avoir là un dialogue. François va exposer à cet homme devant bien sûr un peu sa cour, un peu ce qu'est le christianisme. Et voilà. Bon, alors, tout le monde est intéressé par ce que dit François. Mais, même si on ne se convertit pas, si on reste dans l'islam, on est donc intéressé par ce qu'il dit. Moyennant quoi, il peut être aussi inspiré le dialogue interreligieux, qui est en même temps un dialogue avec d'autres religions où on trouve un peu les semences du Verbe, les semences de Dieu, ce que Dieu y a mis et qui est cohérent avec l'Évangile, mais qui est aussi, on ne peut pas en rester au dialogue, qui est aussi une affirmation de la foi pour mener au Christ.
En italien, le nom de Saint François d'Assise, ou son surnom, c'est le Poverello.
Poverello.
Le pauvre.
Le petit pauvre.
Petit pauvre.
Je crois que c'est un diminutif.
Il s'est vraiment identifié au Christ.
Alors voilà, il y a une identification au Christ à travers le désir de vivre la vie évangélique. Et peu de temps avant sa mort, voilà, alors qu'il s'est retiré sur le mont Arverne pour vivre le carême de la Saint-Michel, 40 jours pour préparer la fête de Saint-Michel. Bon, c'était des choses qui se faisaient au Moyen-Âge, hein, divers carèmes. Mais voilà, il va recevoir dans une expérience mystique, une apparition un peu complexe d'ailleurs, il va recevoir dans son corps donc les marques de la passion, donc sur les mains, sur les pieds et sur le côté, ce qui montre son identification non seulement physique, corporelle, mais spirituelle, donc au Seigneur Jésus.
En conclusion, Abbé Philippe Beitia, pourquoi selon vous aura-t-il fallu attendre le 21e siècle pour qu'un pape porte le nom de François ?
Bien, parce que...
pape jésuite en plus.
Oui, quand les papes choisissent un nom, c'est bien sûr symbolique. Or parfois, ils sont dans l'admiration de leurs prédécesseurs. Pas, mettons, le pape Pie XII, admiré, le pape Pie X avec qui il avait travaillé, le pape Pie XI, bon. D'autres, bien sûr, font un lien avec des événements historiques. Par exemple, le pape Paul VI se réfère à Paul V, bon, voilà, donc la réforme de l'Église et ce genre de choses. D'autres aussi veulent trancher. Alors, le pape François le fait, mais le pape Jean XXIII, bon, il y avait eu bien sûr 22 gens avec lui, mais Jean XXIII ne se situe pas tout à fait dans cette affaire, mais voilà, plutôt l'apôtre Jean et le pape Jean-Paul II, qui a voulu unir dans son ministère ce qu'avaient fait ses deux prédécesseurs. Donc voilà, selon l'élu, il y a... Et donc je pense que le Saint-Père actuel, il semble qu'on lui ait soufflé le nom, hein, durant le conclave, dit-il. Le Saint-Père actuel, en choisissant le nom de François, sûrement c'est un appel à une église plus évangélique, une église sûrement plus simple, hein, de la simplicité de l'Évangile. Donc voilà, le retour aux sources de l'Évangile, qui est toujours ce que l'Église a à faire. Voilà, l'Église, et semper reformanda, est toujours réformée, elle ne peut se réformer, elle ne s'est réformée dans l'histoire qu'en revenant aux sources de l'Évangile.
Un grand merci à vous, Abbé Philippe Beitia, de nous avoir parlé de Saint François d'Assise, que nous fêtons ce 4 octobre. Merci à vous.